Ouais, il y en a un, typiquement, qui a l'habitude de réserver dans des restaurants et se lever à la fin du restaurant et se barrer sans dire au revoir, sans rien dire, sans demander l'addition. Juste, il se barre parce qu'il a l'impression que, naturellement, de par son statut, en fait, il peut ne pas payer au restaurant et d'ailleurs, c'est un droit. Ce truc-là est complètement zinzin.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Manger et donner son avis. Je ne me souviens pas avoir vu ces deux compétences mises en avant dans les fiches ONICEP que la conseillère d'orientation nous montrait au lycée. Et pourtant, le métier de critique culinaire existe en France depuis le début du 19e siècle. Dans quel salon feutré cette activité est-elle née? Comment l'art de juger les plats des autres est-il devenu une profession? Et sur quels critères choisit-on de critiquer la nourriture au juste? Quel est le sens des classements étoilés? À quoi riment ces grandes messes récompensant chaque année les soi-disant meilleurs restaurants au monde? Peut-on décemment hiérarchiser la cuisine sans tomber dans des biais occidentalo-centrés? Et d'abord, la critique culinaire, est-ce que c'est pas un truc de riche par hasard? Dans cette série, mettons les pieds dans le plat et allons disséquer le travail des plumes, tantôt enjôleuses, tantôt acerbes, qui semblent faire la pluie et le beau temps sur la réputation des restaurants. Partons à la rencontre de ce métier mystérieux et parfois, ironiquement, critiqué. Un jour pour ses courbettes injustifiées, le lendemain pour son injuste sévérité. Alors, de quoi la critique gastronomique est-elle le nom ? C'est dans les pages de L'Express, en août 2018, qu'on peut lire ces quelques lignes à propos de l'auberge corse Sole e Monti. Bien loin de la soupe de poisson et des loups au fenouil auxquels un certain tourisme de plage réduisait le répertoire insulaire, Félicien remet au goût du jour ce que tous les restaurateurs locaux avaient négligé, une authentique gastronomie de montagne qui tourne ostensiblement le dos à la mer. Au coin du feu, dans la salle à manger ornée de toiles d'artistes locaux ou dans le jardin fleuri à l'ombre des tilleuls et des arbres fruitiers, il entretient un savoureux cabinet de curiosités culinaires. Ici, la tchatch, une tarte originaire du village voisin de Lévis, garnie de pommes de terre écrasées avec de l'huile d'olive et de la tome de brebis fumée. Là, la rivia de Sartène, une singulière brochette réunissant les abats, cœur, rognon, foie, riz, rate, des cabris ou des agneaux enveloppés d'une crépinette longuement rôtie à la braise. Voilà un extrait d'une critique culinaire écrite par François-Régis Gaudry, journaliste et critique gastronomique. Pendant 15 ans, François-Régis Gaudry a été responsable des pages restaurants de l'hebdomadaire L'Express. Aujourd'hui et depuis 2010, il anime l'émission On va déguster sur France Inter. François-Régis Gaudry est aujourd'hui l'une des figures qui arrive tout de suite en tête lorsqu'on pense au métier de critique culinaire. Mais historiquement, il y en a eu d'autres avant lui, d'autres auteurs, critiques et journalistes gastronomiques qui ont adapté la critique culinaire, véritable genre littéraire, au style de l'époque. Grimaud de la Reynière est l'un de ceux-là. Au début du 19e siècle, il déambule dans Paris à l'affût des meilleures adresses d'artisanat de bouche et prodigue de nombreuses astuces culinaires. Il met également en place un jury dégustateur chargé de noter les plats des restaurateurs. Ce qui n'est pas sans faire penser encore une fois à François-Régis Gaudry, que l'on retrouve aussi dans l'émission Top Chef, depuis 2020. Mais l'époque de Grimaud de la Reynière, c'est aussi l'époque où, après la Révolution française, la gastronomie se transforme. Elle n'est plus réservée aux nobles et se démocratise auprès de la bourgeoisie. Ce qui fait de la critique culinaire un exercice encore socialement marqué, comme le fait remarquer Sidonie Nolin, que nous avons reçu dans le précédent épisode.
Une des thèses pour expliquer la naissance de la critique gastronomique à cette époque-là, c'est effectivement, on a des nouveaux établissements de restauration qui apparaissent. On a aussi une nouvelle clientèle bourgeoise qui ne connaît pas forcément les codes de la haute cuisine aristocratique. Et donc, il va falloir qu'il y ait des intermédiaires pour les guider, ces nouveaux clients, vers qui sera adapté à leur goût et pour leur apprendre aussi les codes de la haute cuisine.
La fonction du critique culinaire est donc intrinsèquement liée à celle de l'expert, celui qui va contribuer à transmettre les bonnes mœurs et le bon goût à la bourgeoisie. Cette posture de sachant en fait parfois une figure redoutée, notamment par les restaurateurs et restauratrices qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. C'est notamment le personnage de Anton Ego, le critique culinaire que l'on retrouve dans le film Ratatouille, avec ses avis tranchés, son intransigeance et la finesse de son palais si difficile à contenter. Alors, quand on dit ça, tout se passe comme si le sort des restaurants, leur réputation, ne reposait que sur l'avis qu'allait pouvoir se faire un critique d'un plat qui lui est servi, un jour où il aurait eu l'idée tout seul de passer la porte d'un établissement. Ça, c'est la version fantasmée des choses. Car à l'ère de l'ultra-communication et de l'hyper-compétitivité, la réalité du secteur est légèrement différente. À l'instar du monde de la musique, le monde de la restauration fonctionne désormais de plus en plus avec des agences de relations presse, soit des agences de communication qui aident les chefs à pouvoir gagner en visibilité auprès des médias. Autrement dit, il est possible pour les restaurateurs et restauratrices d'aujourd'hui de se payer les services d'une agence de relations presse qui va établir une stratégie de communication, contacter des journalistes et des influenceurs pour les inviter, mettre les bons mots sur la cuisine et la démarche du restaurant et donc travailler à médiatiser une adresse. À titre personnel, je dois dire que dans mon répertoire, il y a quelques agences avec qui j'aime beaucoup interagir, car j'y trouve des personnes passionnées de gastronomie qui font un excellent travail de médiation avec les chefs. Dans un secteur de la restauration très pris par le temps, il arrive régulièrement que communiquer avec une brigade ne soit pas chose facile. Les RP permettent alors de caler des interviews, répondre à quelques questions, par exemple sur les fournisseurs de la cuisine et l'histoire du chef, ou encore faire découvrir un plat signature. J'entends néanmoins que ce système peut créer une différence de visibilité énorme entre les restaurants qui ont le budget pour se payer les services d'une agence et les autres. Il appartient donc aux journalistes, à mon sens, de ne pas se contenter de ce que les RP proposent et d'être capable d'aller fureter par soi-même, par-delà les comptes Instagram super suivis et les agences de communication. Ce fonctionnement en service RP, le chef Guillaume Sanchez du restaurant étoilé Nesso veut le démystifier. Lui qui a eu longtemps recours à ce genre de service a choisi récemment de s'en défaire, après quelques mauvaises expériences avec des critiques culinaires dont il souhaite aujourd'hui dénoncer l'impolitesse et la désinvolture.
C'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux mondes dans la restauration et chez le consommateur. Ceux qui sont au courant et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui comprennent comment ça fonctionne et ceux qui connaissent pas du tout ce milieu et qui se disent que la presse fait un métier de d'enquête et de recherche et que quand on tombe sur un restaurant c'est parce que on est passé devant et qu'on s'est arrêté et que du coup on a sorti sa carte bleue et qu'on a été goûter la cuisine d'un restaurateur. Et en fait il y a plein de jeunes qui ont commencé à m'écrire en disant genre je comprends pas en fait je taffe comme un malade et on me traite jamais en fait du nouveau Mozart de la cuisine dans un magazine. On parle jamais de moi. J'ai jamais un article qui sort et je pige pas. Donc j'ai commencé à leur expliquer calmement en fait que c'était comme ça et que c'était des services RP qui envoyaient des journalistes dans des restaurants. Et en fait je me suis rendu compte que personne n'était au courant et que même le consommateur n'a aucune idée de pourquoi un chef en fait va être mis en avant pendant un an dans tous les magazines non-stop. Personne n'est au courant.
Payer ou ne pas payer est un débat récurrent lorsqu'on parle de critiques sincères et authentiques. Comme nous le faisions remarquer dans le précédent épisode, certains journalistes n'ont pas la possibilité de toujours se faire rembourser leurs notes et sont donc bien obligés, pour exercer leur métier, d'accepter parfois des invitations. Ce qui, à l'image des critiques littéraires, ciné et de théâtre, qui ne reçoivent leurs livres qu'en service presse et sont invités au projo et en avant-première, ne les empêche pas de faire correctement leur travail en gardant leur esprit critique. On peut donc tout à fait ne pas payer et rester intègre. Le profil auquel semble s'en prendre ici Guillaume Sanchez, c'est surtout celui de celui qui ne paye jamais et qui exagère. Celui qui, alors qu'on ne pensait pas l'inviter, agit comme s'il n'avait pas compris qu'il devait passer à la caisse. Celui qui, en somme, se croit tout permis, tant il pense que sa belle plume et son fin palais en fait un mangeur au-dessus des autres.
Ouais, il y en a un, typiquement, qui a l'habitude de réserver dans des restaurants, et se lever à la fin du restaurant et se barrer sans dire au revoir, sans rien dire, sans demander l'addition. Juste il se barre parce qu'il a l'impression que naturellement, de par son statut, en fait, il peut ne pas payer au restaurant et d'ailleurs, c'est un droit. Ce truc-là est complètement zinzin. Vraiment. Et il y a aussi ceux qui se sont découverts une conscience économique, une conscience écologique, une conscience de l'humain il y a assez peu de temps et qui ont jamais sorti leur portefeuille dans un resto. Ceux-là aussi sont très très drôles. Et pour le coup, ceux-là ne font pas forcément partie de médias. C'est juste des mecs qui se sont intégrés à ce milieu-là il y a quelques années et qui ont l'impression que, parce qu'ils sont suivis par 300 personnes et que les mecs leur disent qu'ils savent écrire, qu'ils ont le droit en fait de pas payer un restaurateur et du coup en fait par extension de pas payer les produits qui sont dans l'assiette, les fournisseurs, l'équipe, le loyer, l'électricité, enfin un restaurant quoi. Ces deux trucs là sont plutôt mignons, mais se font régulièrement. Mais ça reste de l'ordre du mignon. Moi, ce qui me dérange, c'est quand un journaliste se pointe, invité encore une fois par un service RP, donc qui se pointe avec un pote et que au déj, on le voit commencer à aller taper de la coke absolument toutes les 20 minutes, donc à peu près entre chaque plat, pendant tout le déjeuner, être complètement sous à la fin du déj, et se permettre d'écrire, en bien ou en mal, on s'en fout, c'est pas le sujet, mais se permettre d'écrire sur son expérience de client au restaurant, complètement zinzin. Tout le monde sait que ce mec-là est alcoolique et toxicomane depuis des années, et ce mec-là continue en fait d'avoir une puissance de frappe médiatique phénoménale. Ce même mec d'ailleurs qui écrit les communiqués presse et qui visite les restaurants derrière. Le problème, c'est juste une question de responsabilité vis-à-vis d'un entrepreneur. C'est-à-dire quand un journaliste va écrire un article un peu piquant sur son expérience au restaurant, ce qui est aussi son job, de pouvoir dire quand ça se passe pas bien, il faut qu'il soit en état en fait de l'expliquer. Si ce mec-là en fait se barre à 1h30 du mat du resto complètement sous, je veux juste qu'on m'explique en fait comment l'article qui sort le lendemain dans la presse peut avoir un regard neutre sur ce qui s'est passé.
Il y a 2 ans, Guillaume Sanchez est d'ailleurs fendu d'un post Instagram dans lequel il a vivement critiqué ses comportements de critique culinaire sans gêne.
C'était une des semaines où j'avais mon fils qui avait mal dormi parce qu'il était encore tout bébé à cette époque. Du coup, le matin, je me réveille, je suis mort de fatigue. Et le premier truc sur lequel je tombe en ouvrant mon téléphone, c'est un article dans Le Monde qui parlait de la prise de poste de Jean Humbert au Plaza Athénée. Et alors que le mec n'avait pas encore commencé à cuisiner, on lui explosait déjà la tronche dans la presse. En fait, cette injustice-là m'a fait prendre conscience que ces mecs-là avaient trop de pouvoir pour qu'on puisse les laisser nous faire ça, en fait. Moi, j'ai juste imaginé la tête de Jean que je ne connaissais pas, que je n'avais croisé que 2-3 fois dans ma vie, et on n'est pas potes et tout ça, tu vois. Mais juste, j'ai trouvé ça injuste. Injuste de laisser des mecs genre fracasser un autre mec ouvertement dans la presse. Quand j'ai vu les noms ensuite des journalistes, ça m'a pas étonné. Si, il y en a un qui m'a étonné. Et je trouvais ça très putaclic et très méchant pour rien, en fait. Voilà. C'est, du coup, 5 minutes après, mon poste sortait, écrit avec les pieds, qu'avec des virgules et pas avec de points. Je suis désolé pour la ponctuation, je suis pas très bon avec. Mais avec beaucoup de colère et beaucoup d'envie de voir les choses changer.
J'ai demandé à Guillaume Sanchez s'il lui arrivait alors de remettre les points sur les i auprès de ses critiques culinaires arrogants.
Régulièrement, d'où ma réputation de sale con. D'où le fait que maintenant, quand une marque avec qui je travaille sur un événement appelle certains journalistes, les mecs disent « Ah non, Guillaume Sanchez, jamais ». Mais parce qu'en fait, c'est les mêmes mecs que j'ai empêchés de se lever et partir de mon restaurant sans payer. C'est les mêmes mecs à qui j'ai dit genre « Non, en fait, mon pote, tu prends pas de la coke devant mes clients ». Pendant un déj, c'est les mêmes mecs à qui j'ai dit genre « Man, comment t'as fait pour sortir un article le lendemain matin de ton dîner chez moi où t'étais complètement sous et où j'ai pas eu d'explication ?» Donc, étant donné que je suis pas trop con, je sais que l'article avait été écrit avant même que le mec vienne. Donc à chaque fois, en fait, je leur mets la tête dedans. J'en parlais il y a assez peu de temps avec un autre chef étoilé que je respecte beaucoup et où je lui disais genre « En fait, vous êtes chiant parce que vous pensez tous la même chose. » Et vous avez tellement peur de finir avec la même réputation que moi ou juste d'être bypassé par le journalisme en France et tous ces petits projets-là qui vont autour, en fait. Qu'à aucun moment, vous avez pris position en disant genre, en fait, ce qu'il dit, c'est pas complètement con, mais à aucun moment, ils ont pris position. Alors qu'on est tous d'accord avec ça. Tous. C'est pas juste le point de vue d'un petit chef étoilé du 9e. C'est le point de vue d'une grosse majorité des restaurateurs. C'est bête à dire, mais quand tu payes 3000 balles par mois à un service RP, que tu y rajoutes les déj, les dîners offerts pour les journalistes, en fait, c'est pas 3000 balles par mois, tu vois, c'est beaucoup plus. Donc, c'est un vrai investissement financier de la part des restaurateurs.
Cette discussion avec Guillaume Sanchez m'a fait repenser à mes premières années en tant que journaliste. À l'époque, il m'est arrivé quelquefois de faire des chroniques de disques et des interviews d'artistes pour Vice Magazine. À ce titre, je recevais aussi dans ma boîte mail et par la poste des communiqués de presse avec des descriptions d'albums rédigés par des communicants. C'est à cette époque que j'ai pu observer la paresse de bon nombre de magazines de presse musicale qui se contentaient de reprendre mot pour mot les textes qu'un service com leur avait prémâchés. Guillaume Sanchez à propos de certains titres de presse gastronomiques.
Mais même moi, en fait, je me suis retrouvé genre assez rapidement gêné par cette même presse qui écrivait sur moi et qui parlait de génie, de cuisine révolutionnaire, de machin. C'était écrit par mon service presse, tu vois. Et j'étais gêné et pour la réalité des choses, qui était juste de dire, bah en fait, la cuisine du restaurant Nezo, c'est pas que la cuisine de Guillaume Sanchez, c'est la cuisine de toute une équipe. Tu vois, donc à quel moment, en fait, on parle pas de toutes mes équipes. Et à chaque fois que tu commences à sortir des noms de mecs avec qui tu bosses, bien entendu, ça sort pas dans la presse, parce que ça les intéresse pas, en fait. Ils veulent juste la tête d'affiche et le reste, on s'en fout. Typiquement, là, celui dont je te parlais, là, dont je veux pas citer le nom tout à l'heure, le mec a voulu se faire de la com sur mon dos, il écrit avec les pieds, mais c'est un truc de fou, quoi. Et il bosse pour deux médias, et il y a un moment donné où je me dis, genre, mais en fait, ces mecs-là apprennent pas à écrire avant de faire ce job. C'est complètement fou. Je te montrerai l'article. Ça aurait pu être écrit par n'importe qui de mon équipe, en fait. On n'est pas formé à ça. Il y a 10 ans, j'ai dit un truc à Emmanuel Rubin que je pense toujours. Ça me dérange pas d'être critiqué, ça me dérange pas qu'on me pète la tronche sur un papier, je veux juste que ce soit bien fait. En fait, on cherche tous ça. On cherche juste à avoir des articles bien écrits, et avec du fond, et avec un point de vue journalistique. Si c'est juste pour faire du buzz, ça sert à rien. En fait, les gens aujourd'hui, la tendance est plutôt là-dessus, même sur les réseaux sociaux. Les gens cherchent de la transparence et de la vérité, et un truc hyper brut, qui te donne un avis sur une question. On cherche plus, en fait, ces trucs écrits par des services presse, sans fond, sans personnalité. Voilà, on veut lire un journaliste. On veut plus voir de belles formules. Ouais, retrouver un peu de vérité, ce serait pas mal.
Tout ceci pose finalement la question de l'esprit critique. Quel que soit le domaine dans lequel on exerce, pour écrire des choses intéressantes, mieux vaut être bien informé. C'est parfois aussi ce qui peut peiner certains chefs qui ont le sentiment, face à des critiques trop sévères, que ceux-ci ont une pratique hors sol, que ces derniers se contentent de critiquer là où ils n'ont aucune idée de comment faire.
La cuisine est un métier de culture. Pour savoir manger, il faut manger. Pour savoir cuisiner, il faut cuisiner. Après, on va te dire, oui, mais est-ce qu'il y a besoin de savoir réaliser des films pour parler d'un film? Non, mais il y a besoin d'avoir bouffé du film, en fait. Il y a besoin d'avoir ruiné les sièges de cinéma, tu vois, pour pouvoir parler d'un film. C'est la même chose, en fait, avec la bouffe. Il faut quasiment avoir vécu dans un restaurant, tu vois. Avoir enchaîné les tables, enchaîné les styles de cuisine, avoir lu énormément. C'est pour ça que quand j'entends que le journalisme en France culinaire s'y connaît plus en cuisine que les cuisiniers eux-mêmes, je trouve ça drôle, tu vois, de quoi on parle. Non, c'est faux. Je connais pas un mec qui s'y connaît plus en cuisine que les cuisiniers eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, dans mon restaurant, c'est les cuisiniers qui servent les plats. Tu vois, parce qu'au moins, s'il y a des questions de la part du client sur comment ça a été fait, t'as beau former ton équipe en salle de la meilleure des façons, le seul qui peut y répondre avec le plus de précision et le plus de vérité, c'est le cuisinier lui-même. Et il faut que le journaliste connaisse ça. Les très bons journalistes que je connais sont des super cuisiniers. C'est des passionnés de cuisine. Du coup, ce qu'ils arrivent à dénicher dans une assiette, c'est aussi avec un regard de « Ok, comment il a fait ? Parce que moi, je fais pas comme ça. » Et il faut ça, aujourd'hui, dans le journalisme en France. Il faut ce truc-là d'experts. On a besoin d'experts, en fait, dans tout le domaine.
Le travail du critique culinaire pose la question de la subjectivité d'un regard. Comme dans d'autres champs créatifs, la cuisine est toujours, au fond, une question de goût et de couleur. Rappelons-le, le bon goût des choses est toujours une affaire de subjectivité. Mais il y a d'autres endroits dans la sphère médiatique où l'on fait de la critique culinaire un lieu plus collégial, plus institué. Les guides et les classements, à l'instar du Michelin ou encore du 50 Best. Nicolas Châtonnier est un observateur attentif du monde des cuisines depuis 20 ans. Il revendique un regard particulier sur comment la cuisine se définit comme une activité culturelle. Nicolas Châtonnier est aussi un consultant qui accompagne les acteurs de la cuisine. Récemment, il a écrit « La clé anglaise, géopolitique de la gastronomie française » aux éditions Menu Fretin. Je lui ai demandé de nous parler de classement en matière de gastronomie.
L'idée des classements, elle est vraiment venue par définition classement. C'est le World 50 Best Restaurant qui a été créé en 2002 à Londres. Et c'est lui qui fait référence parce que c'est un classement des 50 meilleurs restaurants du monde, sachant que ils ont agrandi la liste maintenant à 100 restaurants, mais que la principale, c'est 50 meilleurs restaurants du monde. Donc vraiment avec l'idée d'un classement, hein, ils appellent ça ranking en anglais, de 1 à 50. Ça, c'est donc vraiment celui qui me paraît le plus central. À côté de ça, il y a évidemment le guide Michelin, qui n'est pas réellement un classement parce que c'est un guide. Mais donc c'est un guide, c'est-à-dire que c'est un guide qui recense tous les restaurants dans une région donnée. En les indiquant et en les catégorisant, mais ça devient pour moi un classement à partir du moment où, quand depuis 1933, ils affectent une, deux ou trois étoiles, et comme ils ont ouvert de plus en plus de régions dans le monde, clairement, c'est devenu pour moi un classement parce qu'on peut identifier dans le monde entier les restaurants qui font partie de la catégorie 3 étoiles, ceux qui font partie de la catégorie 2 étoiles et ainsi de suite jusqu'à la catégorie 1 étoile. Et donc, c'est pour moi un classement presque plus qu'un guide, puisqu'en plus, le guide papier tel qu'on l'a connu, il a presque disparu dans tous les pays. Et donc, c'est vraiment un outil auquel on accède de manière digitale, et donc ça ressemble à un classement.
Nicolas Chatonnier a été président France du 50 Best. Il nous parle du fonctionnement de ce classement.
Ça me paraît très important de réexpliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, le monde est divisé en une trentaine de régions. Je pense que là, le chiffre précis, quand j'y étais, c'était encore 27 régions. Et chaque région est composée de 40 votants. Et ces 40 votants sont eux-mêmes séparés en trois catégories. Il y a un tiers de votants professionnels, donc de chefs et de restaurateurs. Il y a un tiers de journalistes et de critiques gastronomiques. Et il y a un dernier tiers qui est assez intéressant, qui sont les clients, les gourmands, les gourmets qui visitent ces restaurants. Voilà. Et donc, dans chaque région, il y a 40 votants qui vont voter chacun pour 10 restaurants. Et dans les 10 restaurants, ils doivent voter pour un dans leur région au maximum et 4 restaurants hors de leur région, c'est-à-dire dans le monde entier. Et évidemment, le critère clé, c'est d'avoir pu visiter chacun de ces restaurants dans les 18 derniers mois qui précèdent le vote. Voilà. Ça, c'est la structure du fonctionnement. Et dans ce fonctionnement-là, l'académie de chaire ou le président d'une région, ce que j'ai été jusqu'en juillet dernier, il associe en fait ces 40 votants, il les identifie et il les invite à voter. Voilà, c'est une fonction qui est finalement assez réduite, mais très importante dans le fonctionnement du système 50 Best.
Selon lui, l'événementialisation de la gastronomie permise par le 50 Best a quelques avantages indéniables.
Dans les points positifs de cette aventure qui est maintenant 20 ans, c'est qu'en fait, ce fonctionnement d'abord est global. Hein, c'est le premier classement qui regarde toutes les régions du monde, alors que le Michelin n'est pas partout, n'est d'ailleurs pas très présent pour le coup en Amérique du Sud. Mais le reste, donc le 50 Best, lui, est mondial. Et comme il permet à des votants qui sont des gens qui sont quand même très proches de la restauration, puisque, comme on vient de le dire, ils sont vraiment tous connectés au métier, il y a un effet très intéressant de repérage des tendances, de repérage des tables. Et ça permet au monde entier d'être analysé, expertisé, et donc ça permet effectivement à pas mal de restaurants qui pourraient peut-être être passés sous silence par le Michelin qui les aurait pas repérés d'être intégrés à une liste. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment cette capacité globale de faire une photo à un moment donné de la restauration mondiale. Et de manière équilibrée, ce qui fait qu'en fait, on peut être dans un petit pays et être aussi bien représenté que dans un grand pays. On peut être un restaurant très lointain et être aussi bien représenté qu'un restaurant au cœur de l'Europe. Et ça a permis donc de donner vie à toutes les cuisines du monde et à laisser personne derrière. Et ça, je trouve que c'est totalement passionnant. On a vu vraiment l'émergence, les évolutions d'énormément de destinations, avec peut-être des pays qu'on attendait moins. Hein, on a tous un prisme où la France a dominé pendant très longtemps, puis l'Espagne avec Ferran Adrià, puis aujourd'hui, certainement, on peut dire que ce sont les pays nordiques qui dominent le monde de la cuisine. Mais le 50 Best montre aussi des tables comme en Slovénie avec Anna Ross, à Isa Franco, des tables italiennes nombreuses, et évidemment tout un très beau panorama de l'Amérique latine. Et ça, je trouve ça, moi, très intéressant, d'autant plus que le 50 Best créant des événements très forts, ça a généré une création d'une communauté très cosmopolite, très ouverte, et c'est un des atouts, moi, que je trouve très important du 50 Best, c'est vraiment la capacité de rassembler au-delà des frontières tout le monde de la roue et de la gastronomie. Et je pense que moi, c'est un effet très, très positif.
Mais Nicolas Chatonnier observe également que le principe de classement demeure forcément subjectif et qu'il est aussi le symptôme d'une mise en marché toujours plus concurrentielle niveau marketing et communication.
Le classement, il est forcément partial, il est forcément, il oublie forcément des tables, et surtout, il a amené à un fonctionnement très différent, très puissant dans le monde de la gastronomie. Il y a une grande journaliste américaine qui s'appelle Liza Abend qui avait écrit un article qu'elle avait appelé le Food Circus. Donc, c'est vraiment le cirque alimentaire. C'est que c'est certain que le 50 Best est très très sensible aux stratégies de communication, aux stratégies marketing, et que donc il faut être une table dans le vent, il faut être une table qui se met en avant pour être capté par les capteurs du 50 Best. Et donc, il n'y a pas de place pour des gens qui seraient volontairement trop discrets. C'est pas vraiment l'idée de les retrouver dans les classements, même s'ils produisent une qualité de cuisine formidable. Le 50 Best capte des gens qui ont envie de participer à ce fonctionnement, à ce classement, qui se mettent en avant, et ça a créé vraiment une nouvelle évolution du monde de la cuisine, ce qui n'avait pas été le cas dans les époques précédentes, et notamment pas avec le Michelin, puisque le Michelin fonctionne sur un système très différent. Il n'y a pas de mise en avant à faire au Michelin, puisqu'en fait il suffit, je ne sais pas si le mot suffire est le bon mot, mais il faut attendre la visite de l'inspecteur Michelin. Et donc, inutile d'essayer de se mettre en avant, c'est l'inspecteur Michelin qui vient à vous et qui vient expertiser votre restaurant. Voilà. Et c'est donc, pour moi, et j'ai toujours résumé la différence entre les deux, il y a une logique très active dans le monde de 50 Best. Il faut se démener, il faut se mettre en avant. Dans la stratégie Michelin, il suffit d'attendre la visite d'un inspecteur. Et donc, c'est une logique beaucoup plus passive.
Pensés depuis des pays occidentaux, ces classements portent également en eux un biais, qui est celui de voir la cuisine depuis un endroit précis du monde. Un regard occidentalo-centré, donc.
Il y a vraiment une logique d'un regard, qui viendrait initialement de l'Europe et du monde anglo-saxon pour le 50 Best, du monde vraiment français pour Michelin, d'un regard qui se poserait sur effectivement toutes les régions du monde. En fait, c'est ce modèle de la gastronomie, ce modèle du fine dining, il est effectivement très occidentalo-centré et du coup, ça a poussé certainement des restaurants avec des cultures différentes à épouser ce modèle pour faire partie de ces classements. Hein, on voit bien que la cuisine mexicaine, par exemple, la cuisine péruvienne, elle a transformé ses restaurants selon le modèle gastronomique pour pouvoir faire partie de ces classements. Est-ce que c'est un progrès ? C'est une vraie discussion à avoir.
Pour Nicolas Chatonnier, il est évident que l'existence de ce genre de classement lance de nouveaux défis pour la gastronomie française.
La France était un leader totalement indiscuté jusqu'aux années 2000. C'est-à-dire que pendant une plus grande partie du XXe siècle et jusqu'aux années 2010, la France est vraiment un archi-leader de la cuisine mondiale parce que c'est nous qui avons inventé cette pratique et c'était chez nous que les grands chefs se formaient et c'était chez nous que l'inspiration venait même à plein d'autres restaurants dans le monde. Et à partir des années 2000 et de 2010 en particulier, il y a eu un changement de centre névralgique dû notamment à l'irruption du 50 Best et à la confrontation entre le modèle 50 Best et le modèle Michelin. Et les Français qui étaient plus habitués au modèle Michelin se sont retrouvés un peu désemparés face aux évolutions demandées par le 50 Best. Et c'est ce que j'ai défendu dans mon livre La clé anglaise, c'est vraiment comment est-ce que la France peut prendre acte de cette évolution radicale du regard mondial sur la cuisine, de l'irruption qu'on l'accepte ou non d'ailleurs, de cette irruption réelle et confirmée d'un nouveau modèle de classement qui était le 50 Best, et donc d'une nécessaire adaptation à une nouvelle manière de se présenter pour faire partie de ce classement et non pour en être exclu, faute d'en avoir accepté les règles. Moi, c'est vraiment ça, mon cas principal, ça a été de dire, il y a certes le Michelin continue sa voie, mais il faut apprendre à maîtriser les demandes du classement 50 Best, sous peine d'être exclu de cette compétition mondiale des cuisines. Voilà. Et c'est ça qui me paraît très important à garder en tête sur le fonctionnement des classements aujourd'hui. Non, pour la France a des richesses et des ressources incroyables en matière de profil de cuisine, et on n'est en aucun cas en train de dire que la France n'est pas à la hauteur. Au contraire, moi je dis vraiment que la France est un formidable pays de gastronomie et qu'elle le sera d'autant plus si elle accepte de maîtriser ce modèle venu du modèle anglo-saxon, venu d'Angleterre, d'où le titre du livre La clé anglaise. C'est que il faut accepter, en plus du Michelin, sans supprimer évidemment la référence au Michelin qui est très patrimoniale et qui reste très centrale et très efficace, mais il faut aussi maîtriser les nouveaux outils. Voilà. Et c'est le prix à payer pour que la France démontre sa richesse, son énergie, sa capacité à proposer un modèle de cuisine qui, moi, me paraît tout à fait intéressant aujourd'hui. Simplement, les caisses de résonance ont changé et elles ne peuvent pas se limiter au guide Michelin. Voilà, c'est ça le sens de ce que je dis, mais je vraiment, c'est une logique très presque patriotique. C'est que je veux vraiment, j'appelle de mes voeux à ce que la cuisine française accepte les nouvelles règles pour montrer à quel point elle est formidable.
C'est la preuve, s'il en fallait une, que la place géopolitique de la cuisine française est en constante mutation. à l'image des médias culinaires également, car la figure du critique gastronomique est elle aussi en train d'évoluer. Ces dernières années, on a pu voir de nouvelles manières de critiquer, analyser et tout simplement parler de la nourriture. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode qui explorera la question des nouveaux prescripteurs de tendance en matière de cuisine. Si vous aimez Bouffon et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Diane Le Sieur et Neila Hakmi. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.